2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 16, et on continue dans le chapitre 3 jusqu'au verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16, chapitre 3 au verset 5. Au nom de Jésus. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un encouragement éternel et une bonne espérance remplisse vos cœurs de courage et vous accorde la force de pratiquer tout ce qui est bien en action et en parole. Enfin, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur continue à se répandre rapidement et à être honorée, comme cela s'est passé parmi vous. Priez aussi pour que Dieu nous délivre des hommes mauvais et méchants, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire. Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous gardera du mauvais. Et le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Il nous rend certains que vous faites et continuerez à faire ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour pour Dieu et vers la patience que donne le Christ. Amen. Paraît-il que l'espoir fait vivre les imbéciles? Je ne sais pas si cette expression est vraie ou faux, mais c'est ce qu'on dit. En tout cas, lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a eu des récits rapportés par des historiens qui ont pu constater dans les personnes qui ont été déportées, seuls ceux qui avaient un projet d'avenir pour le futur, seulement ceux-là qui ont pu résister et tenir bon. Cela signifie que finalement, l'espoir aussi permet à l'être humain d'avoir une capacité de survie et de résistance face aux dangers qui les guettent. Alors, si l'espoir procure un tel bien sur l'homme, quand bien même l'espérance, qui dans le texte ici permet aux enfants de Dieu de persévérer. Et nous pouvons en déduire que l'espérance va encore plus loin que l'espoir. L'espérance en question dans ce texte n'est pas un état ou un sentiment qu'on demanderait à l'homme de la fournir. Voilà, il faut que tu aies l'espérance. Non! Paul décrit clairement que c'est le Christ qui nous donne cet encouragement éternel. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs et qui a été donné dans le cœur des enfants de Dieu. Ce n'est pas à nous de fournir l'espérance, c'est Dieu qui nous donne l'espérance. Et cela signifie que ce n'est pas nous qui fait tout pour avoir cela, c'est le Christ qui la plante en nous et la nourrit par sa parole. Le Christ ne nous fait pas du coaching ou nous amène vers le développement personnel. Il faut que tu sois fort. Non, ce n'est pas un coaching que Dieu fait. Car à ce moment-là, ce n'est plus une grâce et c'est encore une forme de religion des œuvres. Tu dois fournir un effort pour pouvoir espérer. Mais l'encouragement éternel montre aussi que cela vient d'ailleurs, et j'aime bien cette traduction, un encouragement éternel. Ce n'est pas un encouragement tout court, mais éternel, que ça vient d'ailleurs et qui ne peut pas être fourni par l'homme. Alors l'espérance chrétienne va au-delà de ce que nous pouvons voir, va au-delà de ce que nous pouvons toucher, parce qu'elle a une dimension spirituelle. Par contre, l'espoir est limité sur une attente que tout pourrait s'arranger. Voilà notre espoir. J'espère que ça va s'arranger. J'espère que je vais être guéri. Ça, c'est une attente et ça, c'est l'espoir. Et ce tout n'est pas le matériel. Or, nous savons tous que le matériel n'est pas le tout. J'ai suivi un témoignage bouleversant d'une femme qui avait un mari fort malade, qui allait mourir. Et dans son témoignage, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus d'espoir, voilà le mot, l'espoir, c'est-à-dire l'attente de guérison, alors, disait-elle, c'est justement à ce moment-là que j'avais vécu, disait-elle, une situation qui me dépassait. Elle a appelé ce moment-là comme étant un saut de l'espoir vers l'espérance. Un sursaut de l'espoir vers l'espérance. En d'autres termes, là où meurt l'espoir, c'est là que brille l'espérance. Et je reprends une expression utilisée par un collègue de l'UEPAL qui nous avait dit pendant le stage de formation que ce n'est qu'une belle mort. Il faut que notre espoir meure pour que l'espérance céleste puisse naître. Voilà l'objectif des épreuves. Depuis quand la mort devient-elle belle si on dit c'est une belle mort? Ne serait-ce pas trop posé ni exagéré de dire des choses ainsi? Et en revenant et en analysant bien ce texte, le sujet qui alimente cette espérance, c'est Jésus-Christ. Le sujet, ce n'est pas moi. Le sujet, c'est Jésus. Et Jésus, chez Paul, c'est surtout Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort, ressuscité d'entre les morts. C'est là l'espérance. Vous voyez, c'est contradictoire. Ce Jésus crucifié, mort et ressuscité d'entre les morts. De ce fait, la mort de Jésus est la référence ultime d'une belle mort, même si c'était une mort atroce. Jésus avait dit quelque chose dans ce sens dans Jean chapitre 12, verset 24. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, ce grain qui tombe par terre, qui meurt, donne du fruit. Et c'est ça ce qu'on appelle une belle mort. Donc, toute espérance chrétienne puise sa force, sa source à la croix de Jésus. Celle qui était considérée comme étant un scandale pour les Juifs, comme étant une folie pour les païens, c'est-à-dire les sages. Or, Paul déclare avec force et fierté dans Romains chapitre 1, verset 16, que c'est la puissance de Dieu, cette folie que vous voyez devant vous. Oui, c'est une folie pour le monde. Oui, c'est un scandale pour les sages. Mais c'est là que se révèle la puissance de Dieu. Et ça, ce n'est pas de l'espoir, c'est de l'espérance. Alors, celui qui se dit disciple de Jésus ou celui qui suit Jésus doit porter sa croix tous les jours, disait-il. Et nous sommes aussi alors appelés à passer tous les jours. J'appelle cela tous les jours, nous sommes appelés à passer d'un moment de mise à mort de notre espoir afin que l'espérance venant de Jésus puisse naître de jour en jour. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi la vie, ou souvent on fait le synonyme de la vie et Dieu, comme si la vie c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi la vie, pourquoi Dieu s'acharne-t-il sur moi? Quand des problèmes viennent, le premier n'est pas encore résolu, il y a un autre qui arrive. Mais pourquoi Dieu s'acharne contre moi? À un certain moment, quand nous vivons des successions de drames ou de souffrances, inévitablement, nous sommes tous déstabilisés. Un personnage biblique que nous connaissons tous lorsque nous parlons de succession de souffrances et d'échecs, c'est Job. Et je vous invite à lire chez vous, je n'aurai pas le temps de tout lire, Job chapitre 8, verset 8 à 20. Job chapitre 8, verset 8 à 20. Dans ce texte, pour le résumer, « Celui et celle qui oublie Dieu, disait Job, n'ont plus d'espérance. » Donc vous voyez, celui qui oublie Dieu, c'est là qu'il n'y a plus d'espérance. Encore une fois, il est démontré que l'espérance n'est pas un sentiment, mais plutôt la conséquence directe d'une relation avec Dieu. La souffrance, la source de l'espérance est uniquement le Christ. Si nous mettons notre espérance sur un bien, à venir. Si nous mettons notre espérance sur une vie meilleure, alors là, vous allez être déçus. Mais si vous placez votre espérance sur le Christ seul, là, vous ne serez jamais, jamais déçus. Et je tiens à signaler ce message, car il y a un genre de message aujourd'hui, un message humaniste qui véhicule qu'il faut croire en soi. Il faut croire en l'humanité. L'humanité a quelque chose de bien. Je suis désolé, ça fait 16 ans que j'étudie la Bible. L'homme est mauvais. Donc moi, j'en fais partie. C'est une pure utopie de croire que si je change, les choses pourront changer demain. Et là, on touche à un point très sensible, voire même capital, le verbe « croire ». Nous n'imaginons pas que c'est une pure idolâtrie. Le fait de dire « je crois en l'humanité », c'est de l'idolâtrie. « Je crois en moi ». Or, c'est ce qu'on propage aujourd'hui dans toutes les formes de développement personnel. « Crois en toi ». C'est anti-biblique. Ne vous êtes jamais posé la question. Nous allons prononcer tout à l'heure la confession de foi. Pourquoi on commence par « je crois en Dieu, le Père ». « Je crois en Jésus-Christ ». Ça veut dire « je ne crois plus en moi, je crois en Dieu ». J'ai cru en moi. Regarde la catastrophe qui s'est passée dans ma vie. Regardez dans le symbole des apôtres. Pour certains théologiens, parfois même, c'est déjà obsolète pour eux. Ils disent que le symbole des apôtres est déjà dépassé. Mais pour moi, ça me rappelle que je ne suis rien du tout et que j'ai besoin de croire en une valeur sûre qui ne bouge pas, qui est l'éternel. Mais pourtant, c'est tout à fait le contraire, car il insiste ici et marque un accent très fort dans sa formulation. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint. Et à chaque fois que je prononce cette déclaration, j'annonce publiquement, en même temps que derrière tout cela, je n'ai rien à offrir à Dieu. Je n'ai pas la force, je n'ai ni la capacité de pouvoir acquérir une espérance. C'est un aveu d'échec quand tu fais une confession de foi. Tu as échoué et que tu as besoin de Dieu. Et il se peut que je puisse rêver ou imaginer des choses, mais je n'ai pas l'espérance. Vous voyez, au verset 2 et 3 du chapitre 3 tout à l'heure de notre péricope, les mots foi et confiance sont mis en valeur. Alors, signalons au passage que le mot foi en hébreu veut dire « émouna ». Foi veut dire « émouna » en hébreu, c'est-à-dire un terme de la même famille que « amen ». Le « amen » que nous prononçons tous les dimanches, « amen », ça veut dire « j'ai foi ». C'est-à-dire « c'est vrai, c'est certain ». Ce n'est pas du tout un rêve ou une chose abstraite qu'on essaierait de conceptualiser par des mots, c'est du réel. J'ai foi en Dieu. Ce n'est pas « j'espère quelque part qu'il existe ». Non, j'ai foi en lui parce que je le touche. Il est réel, il est concret, ce Dieu. Et donc ici, dans le texte, par exemple, Paul exhorte la communauté de Thessalonique que malgré les persécutions, les dangers qui planent au-dessus de l'Église, la parole de Jésus, dit Paul, poursuivra sa course. Personne ne pourra la stopper. Rien ni personne ne pourra l'empêcher. Les problèmes existeront. Les problèmes existent, persisteront, certes, mais tout cela ne pourra pas barrer la route de la bonne nouvelle. Les paroles de Jésus ne sont pas que des promesses en l'air. Elles renferment une certitude réelle. Alors la question que je vous pose, pour quelle raison persisterait-elle cette parole de Dieu alors? Pour une simple et bonne raison, elle vient d'ailleurs. Elle ne vient pas de ce monde. Elle vient d'une dimension au-dessus de nous qui ne dépend pas de la volonté humaine. Et c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20, surtout au verset 19, où notre paroisse, si vous avez remarqué, quand vous prenez l'encre tous les premiers dimanches du mois, C'est le verset 19 que nous avons pris comme emblème pour notre journal paroissial. Il y a une très belle phrase là. Cette espérance nous possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Relisez votre ancre au tout début de la page. L'encre, c'est là qu'on a pris le nom de notre journal. Cette espérance, nous la possédons. C'est pas nous la posséderons, nous la possédons. Une encre de l'âme sûre et solide. Solide, car elle est enracinée dans la parole. Et cette dernière nous appelle à douter de nous-mêmes. Notre péricope aujourd'hui évoque le mauvais, verset 4. C'est-à-dire le diable. Et lui, à son tour, fait l'inverse. Il nous incite à douter de la véracité de la parole de Dieu, afin que nous croyions à nous-mêmes. C'est le but du diable. Nous comprenons maintenant pourquoi l'incrédulité ou le fait de ne pas croire en la parole de Dieu est péché. C'est parce que le but du diable, c'est de nous faire croire que nous n'avons pas besoin de Dieu et que par nous-mêmes, nous pourrions faire des choses. Et pour terminer, chers frères et sœurs, la parole de Paul dans Galates chapitre 2, verset 20, vous connaissez tous, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, mais ma vie présente dans la chair, aujourd'hui, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Amen.